Que Dieu vous bénisse. Frère François ne saura pas être là, il vous a transmis ses salutations. Il est très très fatigué. La semaine a été un peu dure pour lui. Donc il se repose. On va prier. Bien-aimé Père, nos cœurs et nos regards sont tournés vers toi. Aurez grâce et secours, Père, pour nous instruire, Père éternel, oh Dieu, et éclairer notre chemin. Nous avons besoin de ta révélation alors que le temps devient de plus en plus dur. Fais-nous grâce, Père éternel, oh Dieu, pour que nous soyons réellement tes ambassadeurs. Souviens-toi de ton serviteur qui est fatigué, Père, pour lui renouveler ses forces, Père éternel, oh Dieu. Maintenant, oh Dieu, conduis-nous pendant ces quelques moments, Père, que tu puisses nous guider, nous instruire, oh Dieu, car nous en avons réellement besoin par ces temps difficiles, Père éternel, oh Dieu. Merci pour tous tes bienfaits, Père éternel, envers nous. Et sois honneur, louange et gloire, au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. On va continuer. On parle toujours de la croix. Et la croix est quelque chose de capital dans notre marche. Et aujourd'hui, on va parler de l'esprit de l'âge. Dernièrement, nous avons parlé d'Élie et les enfants d'Israël, la contestation qu'il y a eu au mont Carmel, et comment Élie, après tout ce qu'il a fait, il a fui Jézabel. Et c'est un temps assez difficile. Donc, nous avons vu que le peuple s'est livré à des pratiques que Dieu avait interdites. Et vous pouvez lire ça dans Lévitique 18. C'était l'idolâtrie, promiscuité, libertinage sexuel et toutes ces choses qu'il avait interdites. C'était en fait une période de déchéance morale pour Israël à cause principalement des chefs politiques et des chefs religieux. Gardez bien ces mots, chef politique et chef religieux. Parce que les chefs, que ce soit au niveau d'une nation, d'une société, d'une organisation, d'une église ou d'une famille, a un grand rôle pour indiquer à ceux qu'ils dirigent la direction à suivre. C'est lui qui a la vision et c'est lui qui a le devenir de la nation, de la société, de la famille entre ses mains. Il est donc la fondation, le soutien et en même temps le modèle qui peut aider à élever ou à pervertir les hommes qu'il a sous sa responsabilité. On avait vu que Akab était le chef politique, donc le roi, et sa femme Jézabel était le chef religieux. Et on avait vu que Jézabel mangeait avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Donc, on avait les chefs politiques et les chefs religieux. Et si vous vous souvenez, on avait vu que Akab ne suivait que ce que lui disait Jézabel. Remarquez, c'est les chefs religieux qui conduisaient les chefs politiques. Et nous avons vu que Israël était un peuple qui n'avait à la base que la loi de Dieu. Mais il a été influencé par les autres nations en copiant leur manière de vivre, leur culte. Ceci est très important. Jézabel était la femme d'Akab. Il faut donc faire attention au choix de sa femme ou de son mari lorsque vous devez vous marier. Celui ou celle que tu épouses peut sublimer ou ruiner ta vie. Très, très important. Et ici, ce sont les chefs politiques et les chefs religieux qui sont à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui et la condition dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont favorisé l'émergence des pratiques déviantes par leur politique ou par leur enseignement. On a vu l'émergence des doctrines de toutes sortes, dit aux interprétations diverses par les chefs religieux. Et il suffit de voir, il y a divers courants religieux qui foisonnent de partout. Même les gens ne savent plus tellement où tourner leur tête. Et parfois même, c'est de l'arnaque spirituelle. Je répète, ce sont les chefs religieux qui entraînent cette confusion et beaucoup sont considérés comme des charlatans. Il faut suivre sur le net. Hein. Et d'autres comme appartenant à des loges. Les esprits modernes sont les mêmes esprits d'autrefois. Ça n'a pas changé. C'est exactement la même chose. Il y a donc une très très grande confusion dans les domaines religieux, comme l'était Israël, au point de se livrer au culte païen. Et comme je disais, le monde politique, ce n'est pas mieux. Vous entendrez parler de différentes partis, parti libéral, parti démocratique ou autre. C'est comme si il y a un parallélisme entre le monde religieux et le monde politique. C'est ce qui amène beaucoup de confusion. Et ces hommes politiques, quand ils ne sont pas encore au pouvoir, ils vous promettent mont et merveille. Mais une fois élus, beaucoup d'entre eux prennent des décisions qui sont parfois contraires à ce à quoi vous vous attendiez et ils n'en font qu'à leur tête. Ils votent des lois qui heurtent la moralité et on vous les impose. Je ne vais pas trop peut-être m'attarder là-dessus, mais nous savons que dimanche, il y a des élections. Choisissez et votez intelligemment. Même s'il y aura des déceptions une fois installés au pouvoir. C'est dommage, mais c'est comme ça, on verra peut-être plus tard pourquoi. Ce n'était pas la volonté première de Dieu que les hommes soient conduits par d'autres hommes. Ce n'est pas cela sa volonté première. Mais aujourd'hui, c'est ainsi. Mais le péché a tout corrompu. C'est vraiment le péché qui a tout corrompu. Dieu veut que chacun se dirige lui-même par le Saint-Esprit. C'est vers ce royaume-là que nous allons où personne n'enseignera plus son frère. On va lire dans Hébreux 8, à partir du verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Prions. Père éternel, nous bénissons ton nom, Père éternel, ô Dieu, pour, ô Dieu, te dire merci pour tous tes bienfaits, car tu nous as envoyé le Saint-Esprit, Père éternel, pour qu'il nous conduise. Et c'est lui, et c'est vers lui que nous tournons nos regards, Père, afin qu'il soit dans chacun de nous, baptise, ô Dieu, ton Église, Père éternel, ô Dieu, pour que le monde reconnaisse, Père éternel, que tu es le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, et que c'est toi qui conduis ton peuple. Reçois honneur, louange et gloire. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Donc, je disais que Dieu veut que les hommes se conduisent par le Saint-Esprit. Il n'a jamais voulu qu'un chef religieux ou politique conduise son peuple. Et la vraie liberté, c'est celle-là. Mais à la liberté s'attache la responsabilité. Ça veut dire que personne ne viendra te dire « Ne fais pas ci, c'est mal agir. Ne fais pas ça, c'est mal agir. » Car la loi de Dieu sera inscrite dans ton cœur. Et c'est ce que nous voulons dans chacun de nous. On n'a pas besoin de mettre un gardien derrière quelqu'un ou qu'on surveille quelqu'un. Que Dieu soit celui qui conduit son peuple et que la crainte de Dieu soit dans le cœur. C'est cela. Donc, je répète, Dieu n'a pas fait les hommes pour qu'ils soient conduits par d'autres hommes. Le péché est venu corrompre tout. Et aujourd'hui, ce sont les hommes qui dirigent les autres hommes et nous voyons la catastrophe où ça amène. Les gens n'aiment pas que Dieu les gouverne. Ils veulent un chef en chair et en os. C'est ce que le peuple d'Israël avait demandé à Samuel, devenu vieux, et que ses fils ne marchaient pas dans la voie de leur père. Israël voulait un roi comme les autres nations. On va lire dans 1 Samuel, 1 Samuel 8, à partir du premier verset, jusqu'au verset 8. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les enfants d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis-nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. C'est assez triste, ce peuple qui avait vu des miracles puissants de Dieu en arriver là. Mais s'ils sont en arrivés là, ici, on voit que les juges qui devaient remplacer Samuel ne marchaient pas droitement. Et parce qu'ils regardaient aux hommes, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont rejeté Dieu. Ne regardez point aux hommes. Si vous regardez aux hommes, vous serez déçus un jour. Et comme je l'ai dit, Dieu a voulu que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. Cherchez donc le Saint-Esprit. Donc, à cause du mauvais comportement des fils de Samuel, juge sur Israël, le peuple n'a pas voulu Dieu comme roi. Quelle responsabilité pour le chef! Il est censé être un modèle pour le peuple dont il a la responsabilité. Ce qui veut dire qu'on doit beaucoup prier pour nos chefs, pour les responsables, afin qu'ils soient réellement des modèles. Car leur comportement, leurs actions ont une grande influence sur nous tous. Et les chefs eux-mêmes doivent en être conscients. Dans les églises, aujourd'hui, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent. Il y en a même qui se sont donné des foules de docteurs selon leur propre désir, détournent l'oreille de la vérité et se tournent vers des fables. Ça, vous pouvez lire ça dans 2 Timothée 4, à partir du verset 3 jusqu'au 5. Beaucoup de prédicateurs n'ont plus assez de courage de dire la vérité et de condamner les péchés, car les églises sont devenues leur source de gloire et d'enrichissement personnel. La doctrine de Christ est abandonnée au profit des doctrines d'hommes et des interprétations humaines. Comme la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Tout le monde parle de Jésus comme son sauveur, mais personne ne le veut comme son Seigneur. C'est exactement ce que font ces femmes décrites dans Ésaïe 4. On va lire dans Ésaïe 4, premier verset. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. C'est exactement ce que nous voyons dans les églises. Toutes les églises se réclament de Jésus-Christ. Ces noms et aguicheurs et vendeurs. Ils disent et font ce qu'elles veulent, s'habillent comme elles veulent, pourvu qu'elles portent le nom de Jésus-Christ, car son nom est un parfum qui se répand. Elles veulent se parfumer de Christ, et qui n'aime pas les parfums? Nous tous, nous aimons les parfums. Mais les parfums n'enlèvent pas les odeurs, ils ne font que les dissimuler. Quand tu te laveras, ton parfum naturel est toujours collé à toi. Soyez transformés de l'intérieur pour répandre le parfum de vie de Christ. Il s'agit d'être et non de paraître. Ces femmes-là, ce sont des femmes indépendantes. Elles travaillent et subviennent à leurs propres besoins. En fait, elles n'ont besoin de rien, sauf qu'elles veulent porter seulement le nom de Christ en vue de leur dignité et qu'on enlève leur opprobre. Mais elles ne l'aiment pas. Il ne faut surtout rien leur dire sur leur comportement, leur accoutrement de ce que Christ dit. Je ne veux pas vraiment m'étendre là-dessus. La crainte de Dieu a disparu dans les églises. Les églises sont plus dans l'apparence que dans l'être, plus dans la forme que dans la vérité, plus dans la beauté que dans la vertu. Le prophète a dit dans Éden de Satan, « Si vous voulez connaître l'état de l'église, observez la conduite des femmes. » C'est le thermomètre. Vous savez que les églises sont constituées des hommes et des femmes. Donc, quand on parle de la condition des églises ou qu'on parle de la condition des femmes, on veut parler et des hommes et des femmes. Mais la femme est comme l'outil de pédagogie. Bien. Regardons donc un peu plus, de plus près la conduite des femmes pour voir quelle est la condition de l'Église aujourd'hui. Depuis la Genèse, c'est la femme qui est le maillon faible et c'était le point d'attaque du diable, car il sait que s'il faisait tomber la femme, l'homme, le chef, tomberait aussi, car la femme a une grande influence sur son mari. Ne sous-estimez pas. Pas surtout cette influence. Et on voit, au travers des âges, d'un côté la femme est déifiée et de l'autre, elle est démonisée. C'est vrai dans tout le temps. C'est comme ça que la femme est souvent manipulée par les diables et elle ne le sait pas. Je ne parle pas des filles de Dieu. Remarquez, quand je parle des femmes, c'est parce que nous voulons voir la condition de l'Église. Et l'Église est constituée et des hommes et des femmes. Nous reviendrons sur les hommes un peu plus tard, si Dieu nous le permet. Les grands pièges du diable, c'est la convoitise. On peut voir ça déjà dans Genèse. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et quand je parle de convoitise, si vous remarquez bien dans les mots convoitise, il y a les mots convoi et attiser. C'est un convoi qui attise naturellement pour vous conduire au mal. Parmi les définitions que la route donne du convoi, j'aime celle-ci. Le convoi, c'est une suite de voitures de chemin de fer entraînées par la même machine. Mais qui conduit cette machine? Naturellement, c'est le diable. Et c'est quoi attiser? Larousse nous dit qu'attiser, c'est exciter, rendre plus violent un sentiment. C'est aviver un feu en lui fournissant de nouveaux matériaux, en soufflant. Par exemple, le vent a attisé l'incendie des forêts. Mais nous lisons aussi dans la Bible que le feu s'éteint faute de bois. Il y a comme ça des gens qui aiment souffler sur un feu qui est en train de s'éteindre pour le rallumer. Ne soyez pas l'agent du diable pour exciter les disputes ou propager le mal de son frère. c'est pas bien. Je répète, la cible du diable, c'est l'homme. Alors, que fait l'homme? Que fait le diable? Il travaille sur la femme. Et comment il travaille sur la femme? Par un tas d'artifices. La beauté des femmes a augmenté grâce à toutes sortes d'ingénieries et artifices. Oh, on peut citer l'ingénierie cosmétique, fabrication de make-up de toutes sortes, et des milliards de dollars sont générés par l'industrie des produits de beauté. Ne parlons pas d'autres artifices de beauté, lifting, maquillage, chirurgie esthétique, on appelle ça du BBL, chirurgie esthétique des fesses, hein. Ils appellent ça les BBL. Chirurgie esthétique des seins et des lèvres, parce que pour les hommes, leur forme et leur volume sont des facteurs importants de l'attractivité d'une femme. C'est pourquoi elle se donne du mal à être de plus en plus belle pour servir ces hommes avides et cupides. C'est consciemment qu'elles le font ou qu'elles se donnent en spectacle comme des marchandises. Pourquoi font-elles cela? Pour séduire. C'est la même tactique du diable. Ça n'a pas changé. Et les hommes, ils tombent souvent. Et ça non plus, ça n'a pas changé. D'un côté, donc, l'ingénierie cosmétique, et de l'autre, on a l'ingénierie vestimentaire. La mode vestimentaire des femmes est diversifiée à l'infini. Allez dans une fête et vous verrez. Du classique au plus extravagant, du sobre au plus sexy, habits collants, jupes fendues, décolletées, tout y passe. Au niveau des chaussures, c'est la cerise sur les gâteaux. Les talons, un autre élément de séduction leur permettant de se dandiner et de mettre encore plus en évidence leur forme ou leur corps. Je parle de ça parce que c'est le piège du diable. Vous voyez, le diable. Et pourquoi ils font cela? Parce que c'est la demande des hommes. C'est pourquoi je disais que c'est aux hommes qu'il faut regarder. Parce que c'est la demande des hommes pleins de convoitises, remplis de toutes sortes d'esprits. Les femmes sont asservies aux hommes et à leurs convoitises, et elles ne le savent pas, ou alors elles feignent de l'ignorer. Comme les hommes sont plus attirés par la vie, c'est sur ce terrain que le diable joue. Alors, le diable leur en fait voir de toutes les couleurs, d'où cette industrie cosmétique et vestimentaire. Les femmes, en faisant cela, se disent qu'elles sont libres, mais en réalité, elles sont asservies non seulement à la dictature de la beauté, mais surtout à celle des hommes, les désirs de leur plaire, leur révolte. Et plus dans les travaux domestiques où les hommes ont essayé de les confiner, mais il y a un autre type de domination plus sournoise et elle ne le voit pas. Considérez que derrière tout cela, il y a des esprits mauvais de séduction et d'élixir. Vous allez dire, ça c'est le monde. Oh non, les églises c'est pas mieux. Et même les fils de Dieu sont séduits, ils y succombent. Vous parlez d'attraction. C'est la cause de la destruction lors du déluge. Nous y reviendrons. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Voyez-vous, tout est fait pour attirer, susciter, attiser la convoitise. Et elles sont de plus en plus belles, une beauté factice. Quelle pression pour nos seuls qui veulent suivre la mode. Pas évident. Et comment a-t-on désarticulé la société? Par la logique économique. La révolution industrielle a arraché les femmes de leur foyer pour aller travailler dans des entreprises, fragilisant à bien des égards les couples. Et les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes. Papa et maman travaillent et ils n'ont pas assez de temps pour eux. Les enfants finissent par être éduqués par la télévision, les smartphones et la rue. Alors, ils deviennent des adultes déséquilibrés qui finissent eux-mêmes par reproduire les mêmes choses que leurs parents. Le tout, c'est quel type de société nous voulons. C'est ça la vraie question. D'une part, la revendication des mouvements féministes fait qu'aujourd'hui, beaucoup de lois sont votées en faveur des femmes. L'avortement est légalisé dans la plupart des pays occidentaux. Ne vous en faites pas, le reste du monde suivra. Comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, beaucoup de ces mouvements féministes ont poussé les bouchons plus loin et ils sont devenus des mouvements anti-hommes. Elles ont conquis leur indépendance sans tirer un seul coup de feu. Elles préfèrent être carriéristes ou, comme le disait le prophète, chouchouter un chat qu'être mère. D'autre part, l'obsession à l'indépendance a conduit aujourd'hui à des foyers dysfonctionnels et de plus en plus désunis. Les femmes prennent aujourd'hui leur revanche, parfois à juste titre, à cause des siècles de domination et d'humiliation abusive qu'elles ont subies de la part des hommes. Mais la revanche n'est jamais une bonne chose. Si leur combat était autrefois légitime, aujourd'hui elles sont allées plus loin jusqu'à saper la place et l'autorité de l'homme. Les hommes n'ont quasiment plus rien à dire, c'est la toute-puissance féminine. Il faut suivre les réseaux sociaux ou YouTube pour voir ce qu'il en est. C'est assez effarant. En fait, elles sont tombées dans les mêmes pièges du système machiste qu'elles essayent de combattre. Rien d'étonnant que les taux de mariage diminuent d'année en année. Et même diverses formes d'union ont été inventées. Je parle des pacs, cohabitations, etc. L'engagement ne dit plus rien. Elles sont tellement orgueilleuses qu'on ne peut leur rien dire. La chose qu'elles te diront, de quoi je me mêle, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Et les hommes ne font pas mieux. Tout est corrompu. Ce sont les conditions qui ont précédé les déluges. C'est pourquoi j'en parle. Ce sont les mêmes conditions et on voit que si on lit dans Genèse 6, à partir du verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je dois vérifier, mais je crois que j'ai déjà lu le prophète disant que c'était des unions libres. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les fils des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Ce sont exactement les mêmes conditions que nous retrouvons maintenant. Si Dieu a détruit le monde d'avant le déluge, ben il détruira celle-ci, aussi vrai que nous nous tenons ici. Donc, les caractéristiques principales de ces temps-là, c'était la beauté des filles des hommes et des unions mixtes. Et ça, Dieu n'aime vraiment pas alors. Dieu n'aime pas l'hybridation. L'hybridation, c'est croiser des entités d'espèces différentes. Et un fils de Dieu ne peut épouser qu'une fille de Dieu. Si tu vas épouser une fille du monde ou si la fille de Dieu va épouser quelqu'un du monde, C'est de l'hybridation. Et Dieu est très sévère là-dessus. Évidemment, Dieu laisse la liberté à chacun de choisir qui il veut. Une des causes de la destruction, donc, au temps de Noé, était la beauté des filles des hommes. Remarquez, il est parlé des filles des hommes et de l'autre côté, des fils de Dieu. Les fils de Dieu ne purent se retenir et se lier à elles par des unions hybrides. Dieu leur a envoyé le prophète Noé avant la destruction, car il voulait donner aux hommes de ces temps-là l'opportunité de se repentir. Mais ils ne voulurent pas se repentir. Et en ces temps, Dieu a envoyé un prophète. Et c'est exactement la même chose qui arrive. Les gens ne veulent pas se repentir. On veut aller à l'église, ça on peut le faire. Là, il n'y a pas de problème. Mais que Jésus-Christ soit notre Seigneur, ça c'est un autre problème. C'est exactement ce que les femmes d'Ésaïe qu'on a lues là réclamaient. On veut juste porter ton nom, mais le reste, laisse-nous occuper de nos propres affaires. Et remarquez, la plupart des sociétés sont tombées dans le déclin à cause d'une moralité dépravée. Il faut aller voir l'histoire. Ils sont tellement dans les plaisirs qu'ils sont aveugles. Dieu n'était pas leur affaire. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Ils étaient trop scientifiques. Il y avait des géants produits de l'hybridation. Ce sont des géants produits de l'hybridation. Au temps d'Abraham, Sodome et Gomorre étaient des villes perverses. Des enfants aux vieillards, ils étaient tous corrompus et s'adonnaient à des perversions sexuelles et à l'homosexualité. Dieu décida de les détruire. Mais avant la destruction, Dieu envoya Abraham pour sortir Lot, car il était parenté à Abraham. On sait que Lot était le neveu d'Abraham. Et certainement, Lot était comme un témoignage dans Sodome. Et peut-être même qu'il leur parlait de Dieu de son oncle. Mais Lot n'a pas voulu déménager car il aimait trop le confort de la ville. Quoique son cœur était tourmenté journalièrement. Néanmoins, il avait instruit ses enfants dans la voie juste, car la Bible rapporte que ses filles qui habitaient encore chez lui sont restées vierges. Et ceci n'est pas un détail, c'est parce qu'il les enseignait. C'est quelque chose de très important, il les enseignait. Et je pense que c'était aussi le cas pour ces autres filles qui s'étaient mariées. Je ne sais pas si dans la société sodomique, il y avait encore des filles vierges. Mais les mariages, les unions hommes-femmes n'enchantaient plus tellement cette société aux mœurs dévoyées qu'ils se sont enflammés de désirs pour les gens de même sexe comme aujourd'hui. L'homosexualité avait atteint toutes les couches et les degrés de perversité étaient tels qu'ils avaient perdu toute moralité et le bon sens. Car comment peut-on prendre les sceptres de la vie et aller les planter dans un lieu de pourriture et de mort? Quand on en arrive là, c'est qu'on est vraiment devenu fou. Et c'est ce que la Bible dit dans Romains 1. Romains 1, à partir du verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. La société d'aujourd'hui est en plein dedans et ça va aller de mal en pis jusqu'à ce qu'ils soient mûrs pour la destruction, comme l'ont été Sodome et Gomorre. Avez-vous vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris? Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé ça. Ils ont poussé les bouchons très très loin. Au bord de la Seine à Paris, ils ont profané la scène de la Sainte Seine, la Sainte Seine de Christ, avec ses disciples qu'a dépeint Léonard de Vinci dans son tableau mondialement connu. Quelle scène obscène et pitoyable! Lorsqu'une société commence à profaner le sacré, le déclin n'est pas loin. Et il est déjà là. Cet Occident qui proclame qu'il a hérité de la civilisation judéo-chrétienne, mais où est passé aujourd'hui cet héritage judéo-chrétien? C'est effarant, c'est inquiétant. Ils ne se cachent même plus. Ils veulent imposer cela aux autres et c'est par l'image. Car tout le monde connaît la force de l'image. Ça a été diffusé dans le monde entier. Et l'image, c'est le moyen de prédilection du diable. Et nous sommes dans une société de l'image. Remarquez comme toute la société est scotchée aux écrans, ordinateurs, télévisions, smartphones, etc. C'est là qu'ils vont puiser toute leur perversité. Et Dieu n'est pas dans ça. Pourquoi Dieu n'est pas dans ça? Dans Exode 20, à partir du verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Et dans Romains 1, 23, nous lisons, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible, on avait déjà lu ça, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous me direz, mais ça, ce sont des représentations. La télévision est aussi une représentation. Remarquez, Dieu, c'est la parole. Et il veut que ses enfants écoutent. Il dit, écoute, ô Israël. Très, très important. Le diable aime l'image, Dieu aime la parole. Dans Romains 10, à partir du 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Dieu parle de prêcher. Vous remarquerez, dans Apocalypse, il est parlé de l'image de la bête. Le diable aime les images. Dieu veut que ses enfants puissent écouter. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne voie. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce qu'on regarde, la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est la Bible. Vous comprenez pourquoi il y a des films, des clips, des vidéos, la publicité avec images captivantes. C'est un marketing agressif par les images. Je comprends pourquoi la télévision et les autres moyens de mass-média sont des instruments que le diable utilise à fond pour entraîner le plus grand nombre dans le péché. Le prophète dit dans l'union invisible de l'épouse, elle a été séduite par la télévision. Aujourd'hui, on dirait, c'est moi qui ajoute, on dirait les smartphones, par les journaux, par ces gens, toutes ces choses séduisantes qui sont visibles dans la rue. Les magazines captivent nos jeunes filles modernes, les photos, ce qu'elles voient dans la rue. Puis vient l'habillement dans les magasins. Combien Satan, ce grand instrument de l'enfer qui est descendu parmi les gens, les a séduits à travers ces choses. Et la femme croit que tout va bien pour elle. Elle est morte et elle ne le sait pas. Elle est loin de Dieu. Vous voyez comment elle a perdu tout cela et de quelle façon subtile. Maintenant, je parle à l'Église. Ce n'est pas seulement aux femmes. Les hommes font exactement la même chose. Dieu soit béni car il met tous ses enfants au large pour les épargner de la destruction imminente. Et Dieu avertit toujours avant le jugement. Nous continuerons prochainement pour parler des hommes. Parce que c'est là que le mal est le plus profond. Êtes-vous happé par le monde ou la mode? On va prier. Examinez-vous vous-même et dites comme David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Demandons la grâce de Dieu pour qu'il nous ouvre les yeux et qu'il donne un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous vivons des temps difficiles où sans ton esprit, Père éternel, ô Dieu, nul ne peut en sortir indemne. Et c'est pourquoi nous avons nos regards tournés vers toi, car les temps sont mauvais, Père éternel, ô Dieu. Nous avons besoin, Père, que tu nous enseignes toi-même, Père éternel. Il est dit que, ô Dieu, un temps vient, ô Dieu, où aucun n'enseignera son prochain, car ta loi sera inscrite dans nos cœurs. Et c'est cela, ô Dieu, après laquelle nous soupirons, Père éternel, ô Dieu, que ta loi soit dans nos cœurs, pour que, ô Dieu, nous ne puissions pas, Père éternel, ô Dieu, nous cacher devant les hommes, Père éternel, mais que nous soyons conscients que Dieu est avec nous à tout moment, en quelque lieu où nous nous rendons, Père éternel, ô Dieu. Fais-nous grâce, Père éternel, ô Dieu. Les temps sont très mauvais, Père éternel, ô Dieu. Ô bien-aimé, sonde mon cœur, Père éternel, et connais mon cœur. Vois si je suis encore dans la bonne voie. Vois si je suis encore sur le chemin de l'éternité, Père. Oui, Père éternel, car c'est sur ce chemin-là que je vais marcher, Père éternel, ô Dieu. Nous comptons sur ta grâce, Père éternel, ô Dieu. Bien-aimé Père, alors que, ô Dieu, la femme est donnée comme outil de pédagogie, Père éternel, tu parles à toute ton Église, Père éternel, et tu vois combien l'Église s'est enfoncée de plus en plus dans les ténèbres, Père éternel, ô Dieu. Chacun, ô Dieu, veut porter le nom de Christ, mais ô Dieu de miséricorde, on ne veut pas, Père éternel, de sa seigneurie. Ô Père, fais-nous grâce, Père éternel, ô Dieu. Nous voulons marcher contents sur toi, Père éternel. Lave nos cœurs de toute souillure, Père éternel, ô Dieu. Et conduis-nous, Père éternel, vers les rivages paisibles, Père éternel, ô Dieu. Là où, Père éternel, nos cœurs peuvent, ô Dieu, savourer, ô Dieu, les bienfaits de l'éternel. Oui, Père éternel, c'est toi, ô Dieu, qui est notre source, Père éternel. C'est toi qui es notre force, Père éternel, ô Dieu. Brise en nous toute rébellion, Père éternel, ô Dieu, et amène nos cœurs à la soumission totale à ta volonté. Oui, Père éternel, c'est notre prière. Ô bien-aimé, fais-nous grâce, Père éternel, ô Dieu. Nous voulons compter sur toi, Père éternel, ô Dieu. Conduis-nous, Père éternel, pour la suite. Nous avons besoin de ton esprit, Père éternel, ô Dieu, Oh, bien-aimé, car nous voulons bâtir sur du solide, Père éternel, et non sur du sable mouvant, Père éternel, oh Dieu. Oui, nous avons besoin de toi, Père éternel. Répands de ta grâce au milieu de nous, Père éternel. Répands de ton esprit au milieu de nous, Père éternel. Et conduis-nous, Père éternel, oh Dieu. Oh, bien-aimé, vers le lieu du repos en Jésus-Christ, Père éternel, oh Dieu. Là où nos cœurs seront en paix. Oui, Père éternel, loin de ce monde corrompu et corrupteur, Père éternel, oh Dieu. Viens nous en aide, Père éternel, oh Dieu. Nous comptons sur toi, Père éternel, oh Dieu. Bénis nos âmes, Père éternel. Soutiens nos cœurs, Père éternel, oh Dieu. Oh, qu'il n'y ait point de faible parmi nous, Père éternel, oh Dieu. Relève ceux qui sont tombés, Père éternel, oh Dieu. Guéris les malades, Père éternel, oh Dieu. Délivre les captifs, Père éternel, oh Dieu. Oui, Père éternel, nous voulons voir une église remplie de l'Esprit de Dieu, marchant, oh Dieu, dans la lumière de ces jours, Père éternel, oh Dieu. C'est cela notre prière, Père éternel, oh Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Père. Oh Dieu, tu nous avertis, Père éternel, de ces choses, car la destruction est imminente, Père éternel, oh Dieu. Oui, Père, nous avons besoin de toi, Père éternel. Secours nos vies, combat pour nous, Père éternel, oh Dieu. Et guide nos pas, Père éternel, sur les sentiers de la justice et de la droiture. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi, Père éternel, oh Dieu. Merci, Père, oh Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous, Père éternel, oh Dieu. Éclaire chacun de nous, Père éternel, oh Dieu. Donne à chacun, oh Dieu, un esprit de révélation et de connaissance de Jésus-Christ, Père. Oui, Père éternel, oh Dieu. Et ton peuple, Père éternel, marchera, Père éternel, oh Dieu, dans ce monde comme des ambassadeurs, Père éternel, représentant les royaumes des cieux sur la terre. Oui, Père éternel, car c'est à cela que tu nous appelles. Ainsi, manifeste-nous ta grâce, Père éternel, oh Dieu. Oui, Père, nous regardons à toi. Souviens-toi, Père éternel, d'un chacun. Fortifie chacun, Père éternel, oh Dieu. Oh bien-aimé, que ces choses, Père éternel, nous puissions les ruminer, Père éternel. Et que, oh Dieu, nous puissions porter attention à ta parole, Père éternel, oh Dieu. Et certainement, oh Dieu, tu nous béniras encore davantage, Père éternel, oh Dieu. Oui, Père, nous avons besoin de toi, Père. Merci pour tous tes bienfaits, Père éternel, oh Dieu. Nous regardons à toi, Père éternel, oh Dieu. Éclaire-nous, Père éternel, oh Dieu. Enseigne-nous, Père éternel, oh Dieu. Dans les secrets de nos vies, Père, enseigne-nous. Oui, Père, parce que tu as dit, Père éternel, que tous seront enseignés de toi. Ce n'est point, oh Dieu, un homme qui enseignera l'autre, mais c'est toi-même qui te chargeras de cela, Père éternel, oh Dieu. Accomplis cela dans la vie d'un chacun, Père éternel, oh Dieu. C'est cela, oh Dieu, notre prière, Père éternel, oh Dieu. Merci pour tout, Père éternel, oh Dieu. Maintenant que nous arrivons au terme de cette réunion, Père, oh, raccompagne chacun, Père éternel, oh Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent, Père éternel, oh Dieu. Et souviens-toi de nos bien-aimés qui sont malades. Pense à notre frère Albert, Père éternel, oh Dieu. Merci, Père, parce que c'est toi qui relèves. Pense à Mama, Père éternel, oh Dieu. Merci, Père éternel, parce que c'est toi qui guéris. Pense à notre sœur, oh Dieu, Astrid. Oh Dieu, merci, Père, parce que c'est toi qui restaures, Père éternel, oh Dieu. Et tous ceux qui, dans les secrets de leur vie, souffrent, Père éternel, écris vers toi pour la délivrance, Père éternel, oh Dieu. Puisses-tu, Père éternel, leur manifester ta bonté, Père éternel, et qu'ils viennent avec des témoignages, Père éternel, oh Dieu, de la puissance de Dieu qui les a visités. C'est cela notre prière, Père. Que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen.